Alors, on continue notre série de prédications sur la lettre aux Hébreux. Et dire quoi ? D'abord que ce message, il est avant tout pour moi et pas pour vous, parce que c'est moi qui l'ai travaillé. Vous n'aurez que les miettes, tant pis. Et ce passage est tellement parlant, tellement clair, que je me dis que on va rester extrêmement collé au texte ce matin. Je vais essayer de... Alors, c'est par là qu'il faut mettre, hein ? C'est ça ? Alors, attends, on va essayer de faire marcher. J'appuie sur la flèche du haut. Bon, sinon, tu... Il est sur « on », ouais. Je suis désolé, hein ? Bon. Le message est fini. Ah, ça marche. Merci. Je crois que je vais te faire signe et tu l'actives. Hein, ce sera plus simple. Voilà ce fameux texte qui est vraiment formidable. On va le lire ensemble et puis on va le décortiquer ensemble, tout simplement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. C'est tout un programme. Alors, voilà, c'est pourquoi on va démarrer vraiment mot par mot. Hein. Voilà, et ça... On le remet avant, s'il te plaît. Voilà. C'est pourquoi, donc, ça fait appel à ce qui était écrit avant. Hein, Et j'ai comme l'impression que il y a une conséquence. Donc, c'est la conséquence du chapitre 1. Et merci, Jean-Pierre, de bien avoir lu ce verset. Hein, que Jésus est supérieur aux anges, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le Créateur, il est la parole puissante. Il est héritier de toutes choses, il est supérieur aux anges, il est fils de Dieu, hein, de même nature que Dieu. Et voilà, donc si je crois tout cela, si j'ai compris cela, si j'ai capté tout cela, eh bien, je peux placer ma confiance en lui. Ça veut dire qu'on passe un peu de la théorie à la pratique. C'est pourquoi. Si je place ma confiance en lui, si le Seigneur est au-dessus de tout, je peux lui donner la direction de ma vie. Hein. Je peux placer ma confiance en lui. Et donc cela a des conséquences radicales dans ma vie. Si je comprends et connais ces choses du chapitre 1, et on peut revenir à ce que Mathias et d'autres ont dit dans les semaines passées, ces choses-là ne peuvent pas rester juste dans ma tête. Juste comme ça, ça doit avoir une répercussion dans ma vie. Sinon, ça ne sert à rien. La parole n'a pas eu son effet, elle n'a pas germé. Et je te laisse mettre la suite. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. N'oublions pas que l'auteur qui a écrit l'Épître aux Hébreux, c'est un juif qui a écrit pour des juifs de la diaspora ou de Jérusalem, à des Juifs qui ont reconnu Jésus, évidemment, comme leur Messie, comme leur Sauveur. On dit des Juifs chrétiens, des Juifs messianiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait cette rencontre. Et ces Juifs, à l'époque, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple parce qu'ils étaient persécutés. Il y avait une double persécution, une persécution de la part de la tutelle romaine, et je ne l'ai pas prise, mais j'ai retrouvé une prière juive du 1er siècle qui est impressionnante, tant la teneur, elle dit « Seigneur, sauve-nous, on nous persécute ». Enfin, c'est des mots très durs. Et on sent que ce peuple juif du 1er siècle, il était harcelé par, et persécuté par, par cet empire, par ces Romains qui les avaient, qui étaient au-dessus d'eux. Et puis, une autre persécution, c'est parce qu'ils étaient croyants en Jésus. Ils avaient reconnu Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Et donc, ils étaient persécutés aussi par les autorités juives. Donc, ils étaient pris un peu comme dans un étau. Et donc, l'auteur les enjoint, les encourage à ne pas abandonner la foi. C'est un peu tout le profil du livre de cette lettre. On pense, les commentateurs sont assez unanimes pour dire que le temple, je parle sous votre responsabilité, Axel et Benjamin, que le temple n'était pas détruit encore. Donc, on peut imaginer ces paroles qui disent que eh bien, les sacrifices qui se font encore à Jérusalem, le temple est toujours là, eh bien, il n'y a plus besoin de sacrifices, il n'y a plus besoin de sacrificateurs. Il y a Jésus et le sacrificateur, le souverain sacrificateur d'une alliance bien meilleure, bien supérieure. Et donc, quelque part, c'est vrai, il y a cette lutte contre le système et cette persécution. Donc, nous devons d'autant plus nous attacher au message. Ça veut dire, d'autres versions disent, nous devons prendre encore plus au sérieux le message. Je ne sais pas si vous le prenez au sérieux. Oui, ben, il faut le prendre encore plus au sérieux. C'est-à-dire avoir une attention plus forte, plus attentive. Et la traduction, c'est nous attacher totalement. Nous attacher totalement au message. Prosecco, facile à retenir. C'est un terme grec utilisé pour attacher un bateau, pour arrimer le bateau au port. Et donc la fixation, elle doit être solide. Et nous, donc, nous devons être arrimés, non pas au quai hein, du port, mais au message que nous avons entendu, aux enseignements que nous avons reçus, c'est-à-dire les enseignements du premier chapitre. Mais ce sont tous ces enseignements qui nous fixent sur Jésus, qui mettent Jésus au centre de notre vie, qui nous font revenir à lui sans cesse, qui mettent Jésus en ligne de mire, qui en font notre modèle, qui en font notre maître souverain. Et la suite, de peur, alors de peur, c'est quoi de peur? C'est une conséquence négative, hein, de peur d'être entraîné à notre perte. D'autres versions disent de ne pas être entraîné à la dérive. Et on retrouve encore ce vocabulaire maritime. C'est l'histoire d'un bateau qui a eu un problème avec son ancre et qui a dérivé loin de sa position initiale. Il y avait le marin qui était dedans, qui dormait, et il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien. Pourtant, s'il y avait une tempête, je pense qu'il serait peut-être rendu compte. Mais pourtant, ben, l'ancre a cassé, la chaîne a cassé, et il a dérivé et il est allé s'échouer sur le bord de la plage. Il aurait pu y passer dans cette histoire. Le bateau est parti à la dérive. Il a dérivé loin de sa position initiale. Donc, ne pas se laisser dériver loin de ce que nous avons entendu. Ce terme « entendu » en hébreu, c'est « shama »,« shma ». Et ce terme a deux facettes, a deux significations. C'est écouter, c'est recevoir un son, c'est entendre, mais c'est aussi appliquer. C'est-à-dire que pour un hébraïque de l'époque, écouter et appliquer, ça va ensemble. Si vous dites à quelqu'un, tiens, écoute-moi, tu vas faire ça, écoute-moi et fais ça, ben, on emploie le terme shama. La pratique, la théorie, entendre et pratiquer. C'est ce qu'ici, il nous est conseillé de faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous pouvez savoir que si vous êtes sur un bateau, si vous ne voulez pas dériver, vous pouvez savoir qu'il faut jeter l'ancre. Mais si on ne le fait pas, le bateau, il dérive. Il n'y a rien à faire. Il faut passer à la pratique. Ce n'est pas juste là. C'est aussi dans la pratique. Les bateaux qui ne dérivent pas, ce sont les bateaux qui jettent l'ancre à l'eau. Et pour nous, c'est pareil. Si ça reste juste au niveau du savoir, c'est dommage. Hein ? En tant que chrétien, pour ne pas s'éloigner de la vérité de l'Évangile, il faut la faire sienne dans sa vie. Il faut vraiment appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Si tu comprends une parole des Écritures que le Saint-Esprit te montre, une attitude à avoir dans une situation donnée, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit, même si tu le fais maladroitement. C'est la bonne manière de s'accrocher à Jésus. C'est de mettre en pratique sa parole en nous. La bonne manière de s'accrocher à lui. J'ai noté, le chrétien doit mettre en pratique chaque jour ce que Jésus nous demande d'être et de faire. Sinon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais rester dans une foi superficielle. Je vais savoir des choses, mais qui ne vont pas s'insérer dans ma vie, qui ne vont pas s'insérer dans cette relation vivante que nous avons avec Dieu. Je vais avoir des points de repère, là, de la parole de Dieu, mais qui ne serviront pas. Et je vais glisser. Et je vais glisser inévitablement. Autrement dit, si Jésus n'est pas la centralité de ta vie, si l'Esprit de Jésus n'anime plus ta vie, eh bien, je perds le cap. Nous perdons le cap. Il y en a des dérives. Je ne vais pas les nommer, je ne vais pas les citer. Une des dérives, moi, qui peut facilement me faire dériver, c'est l'habitude de venir à l'église. Parce qu'on s'anesthésie, on s'habitue. Et puis après, on s'habitue. Et puis on dérive. Mais bon, on ne va pas faire la liste de tout ce qui nous fait dériver. En effet, tu peux mettre la suite, Annick, merci. Donc ça annonce une explication, ou peut-être, j'ai envie de dire, une mise en garde. Tu peux mettre la suite. Puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, d'autres versions disent la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur. Donc l'auteur fait référence encore aux anges. Hein, et donc, parce qu'il fait référence aux anges, on comprend que la parole annoncée, il s'agit de la loi. De la loi que Dieu a donnée aux hommes par l'intermédiaire de Moïse. Les anges étaient présents. Et cette loi, nous dit le texte, a été confirmée. Ça veut dire qu'elle est ferme, elle est stable, elle est rentrée pleinement en vigueur. Elle a son effet, elle fonctionne encore, car elle nous montre, en tant que chrétiens, notre péché quand nous désobéissons. Tout ce qui a été donné comme enseignement par Dieu lui-même dans la loi est bon. Paul le dit, en tout cas, ce n'est pas erroné. La loi, Moïse, le sacerdoce, les sacrifices, tout cela a été institué par Dieu lui-même. C'était des choses saintes parce qu'elles étaient ordonnées par Dieu. Mais en termes de priorité et de statut, elles sont inférieures à Jésus. Et c'est tout l'objet de l'explication de la lettre aux Hébreux. On dit que cette lettre, c'était un discours qui a été prêché par l'auteur et qui a été remis par écrit. Tout cela, c'est inférieur à Jésus. Jésus est bien plus supérieur. Alors l'auteur ne dénigre pas pour autant tout ce qu'il y avait dans le Premier Testament, hein, ni ici ni plus tard, mais il dit que voilà, aussi belle qu'étaient toutes ces choses, Jésus est encore au-dessus. Hein. Dans Colossiens 2, il est dit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Et merci Jean-Pierre d'avoir rappelé que Christ est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de la personne de Dieu. En lui habite toute la déité. Et tout ce qui a été écrit, toutes les écritures qui ont été écrites avant Jésus, sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour réfuter. Et ça nous sert d'enseignement pour approfondir notre relation à Dieu. Tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Il est le summum de la révélation parfaite. Pourquoi ? Parce que son sacrifice est parfaitement parfait. Je fais des pléonasmes. Pour nous sauver parfaitement. On l'a chanté et on l'a proclamé ce matin. Tu mets la suite, s'il te plaît, merci. Et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction. Là, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt un avertissement. C'est attention, ce qui s'est passé, c'est l'explication qui nous dit que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction. Waouh ! Là, l'auteur nous rappelle la sainteté de Dieu. On ne plaisante pas avec la loi de Dieu. Cette loi qui a été donnée par l'intermédiaire des anges, quand elle est transgressée, quand elle est désobéie, eh bien, il y a un châtiment, il y a une juste sanction. Ça veut dire que Dieu prend très au sérieux sa loi. Très au sérieux. Il l'a considérée comme de la plus haute importance et il n'hésitait pas à punir ceux qui désobéissaient. Dans le terme transgression et désobéissance, c'est assez proche. Transgression, ce sont des choses qui ne sont pas conformes à la loi de manière consciente et de manière inconsciente. La désobéissance, il y a une manière un peu plus consciente de désobéir à la loi. Les deux sont condamnables. Dieu n'hésitait pas à punir ceux qui désobéissaient. Il y a plein d'exemples. Dieu a tué 3000 Israélites au pied du Sinaï pour avoir désobéi et adoré un veau d'or. 3000. À cause de leur manque de foi et de leur désobéissance, évidemment. Il a forcé les Israélites à marcher 40 ans dans le désert, à tourner, parce qu'ils ont désobéi. La génération qui est sortie du pays d'Égypte n'a pas pu entrer dans la terre promise. Ils marchaient pour ça. Ils marchaient pour entrer dans la terre promise. Ils n'ont pas pu y rentrer, à part Josué et Caleb. Même Moïse n'a pas pu entrer parce qu'il a désobéi. Waouh ! Donc, on ne plaisante pas avec la loi de Dieu. Il est dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et le terme accomplir, c'est un terme qui explique, qui nous dit que c'est prégnant en nous, que c'est quelque chose qui est en nous et qui vient s'incruster carrément dans notre chair. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Évidemment, cette loi, si elle est en nous, et que Christ est en nous, il a souffert pour nous et son sacrifice est parfait. Et on ne va pas refaire le système des sacrifices. Voilà. La suite, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Yahou ! Comment échapperons-nous ? Donc, si la loi qui venait de Dieu par l'intermédiaire des anges a été ignorée par les croyants de l'époque et a reçu une juste punition, À combien plus forte raison, nous, si nous ignorons la parole qui vient de Jésus, qui est bien plus supérieure aux anges, nous serons responsables et nous serons sanctionnés parce qu'elle vient de Jésus. Alors, échapper à quoi ? Là, il s'agit du salut. Alors, quand on parle du salut, on parle du salut en règle générale, dans son sens ultime. Hein ? Je veux passer ma vie, mon éternité, je veux la passer avec Dieu. Vous aussi ? Vous n'êtes pas très enthousiaste. Hein ? Vous voulez passer votre éternité avec Dieu ? Ah bon, mais fait peur. Hein, voilà, et si tu veux passer ton éternité avec Dieu, il faut que tu le sois déjà avec lui ici-bas. Il faut que tu le sois déjà ici avec ses bas, parce qu'il n'y a que lui qui est passé de la mort à la vie. Il n'y a que lui qui est mort et qui est ressuscité, qui a déjà fait ce chemin. Il n'y a que lui qui peut te faire passer des ténèbres à son admirable lumière, à la lumière de son royaume. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et pour être avec lui, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître ta faillite devant Dieu. Il faut reconnaître que tu as échoué. Il faut reconnaître que tu as vécu sans Dieu, que ce n'était pas ta priorité. C'est le texte qui nous encourage à faire de lui notre priorité. Et pour cela, il faut demander pardon à Dieu. Il faut se repentir. Il faut lui demander pardon et le Seigneur te pardonne instantanément. Si ton pardon, ta demande est sincère, le Seigneur te pardonne instantanément. Il y a un verset qui dit « Échapper à quoi ? Échapper à la colère de Dieu. » Évidemment, échapper à la colère de Dieu. Cette colère qui viendra et qui nous jugera d'une manière implacable et de manière parfaitement juste. Et franchement, la colère de Dieu, il est dit qu'elle sera redoutable et terrifiante. On en parle peu, hein, de la colère de Dieu. On n'aime pas trop ça, hein, ça nous met mal à l'aise. Mais écoutez ce verset, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. Amen. Mais à posséder le salut, à le posséder par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Je le relis. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Hein ? Voilà, ici l'auteur s'adresse à des Juifs croyants en Jésus. Il ne dit pas comment échapperont-ils ? Comment échapperez-vous ? Il dit « Comment échapperons-nous » C'est-à-dire qu'il se met dans la boucle. Il s'inclut. Lui aussi, il peut, s'il néglige ce si grand salut, il se pose la question « Comment échapper à la colère ?» Il y a des personnes qui méprisent le salut, qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de Jésus. Ok, ceux-là, ils sont condamnés à la perdition éternelle. Ici, on parle de croyants qui négligent le salut. Alors, il y a un contexte de persécution, comme je l'ai dit. Évidemment, ces Juifs croyants du 1er siècle, ils subissaient une persécution telle qu'ils pouvaient se décourager et négliger le salut, et même jusqu'à abandonner. Mais ça, moi, ça me fait peur. Parce que quand on prend la Bible, qu'on la met dans le contexte de l'époque et qu'on la recontextualise pour nous aujourd'hui, c'est un peu le travail qu'on doit faire en tant que prédicateur, quand on la recontextualise, on se dit, mais eux, ils négligeaient le salut, mais ils étaient persécutés. Mais moi, vous vous sentez persécuté ? Pas ici. Donc l'avertissement, il est encore bien plus fort pour nous. En tout cas, c'est un rappel opportun pour nous. Si ceux du premier siècle étaient tentés de retomber dans leurs anciennes pratiques religieuses, hein, combien nous, dans notre monde moderne, avec toutes les tentations qu'il y a, hein, numérique, la culture, etc., on est d'autant plus concernés et ne négligeons pas ce salut. Voilà, il est facile de négliger le salut en délaissant notre relation avec Dieu, délaisser la lecture, la prière et le témoignage. J'ai noté Jean 15, verset 5, je vous le lis. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Etc. Waouh. Et il est dit que ce salut, il est grand. Il est grand ce salut. Pourquoi ? Parce que quelqu'un m'a dit, mais parce que la perdition, elle est grande. Et on voit toute la grandeur de la grâce de Dieu quand il dit ce grand salut. Il est grand parce que, pourquoi ? Parce qu'il a la capacité de transformer un pécheur comme moi, comme nous tous, en enfant de Dieu. Il est capable. J'aime bien, j'ai une sœur qui dit toujours, mais que tu es capable. Mais le salut, mais Dieu, il est encore plus capable. Voilà, cette capacité du salut, elle est dingue. C'est une dinguerie, comme on dit, parce qu'elle transforme le pécheur, elle le transforme en enfant de Dieu. Je ne sais pas si on peut imaginer l'enfant de Dieu. Moi, j'ai deux filles, quand elles rentrent à la maison, même pas, elles sonnent. Elles ouvrent la porte, elles rentrent. Elles sont chez elles. Normal, hein ? Quelque part, nous sommes des enfants de Dieu. On est dans notre maison, dans le royaume. Ce salut est grand parce qu'il est disponible. Il est accessible à tous. À tous et de partout. Il est fiable à 100% ce salut. Il est accessible à tous jusqu'au dernier souffle de notre vie. Jusqu'au dernier souffle de notre vie. Il est au-dessus de tous les systèmes religieux que vous pouvez rencontrer. Parce que ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est lui qui nous sauve. Il est basé sur la fidélité de Dieu et non pas sur mes capacités. Et il est grand parce qu'il est pour toujours. Nous sommes sauvés pour toujours. Dieu ne nous retire pas le salut. Dieu nous donne le salut. Et il nous le donne pour toujours. Alors, quand on connaît un si grand salut, comment le négliger ? Comment on peut être sauvé et négliger ce salut ? Comment se réjouir que nos péchés soient pardonnés, que nous sommes enfants de Dieu et qu'on ne met pas en œuvre ce salut ? Et de continuer à pécher. La suite. Car, ah oui, tiens, moi j'avais, là on a une explication, ce salut, d'autres versions ils disent car, ce salut, là ça va donner une explication qui va nous convaincre encore plus. Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Et dans ce texte, dans cette quatrième verset, il y a trois choses. Il y a le Seigneur lui-même, Il y a Dieu, il y a ceux qui ont entendu, première génération. Dieu a appuyé leur témoignage. Il y a trois personnes. Et dans Deutéronome 19, c'est là qu'on voit qu'on est dans une pensée juive. Il fallait trois témoins pour établir un témoignage. Et c'est intéressant que l'auteur, on sent bien qu'il est juif, on sent bien aussi qu'il ne faisait pas partie, peut-être pas de la première génération de ses disciples qui ont suivi Jésus, puisque Dieu a appuyé leur il parle, Dieu a appuyé leur témoignage, a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Mais voilà, en tout cas, il y a eu cette transmission de la parole de Dieu, de ses enseignements, de ce message que Christ est au-dessus de tout et qui nous sauve. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles. Et ce que j'aime, c'est que ce petit texte, il m'a touché parce que il y a comme une progression. Annoncé d'abord par le Seigneur. C'est le premier qui a annoncé l'évangile, ce salut si merveilleux. Après, vous avez ceux qui l'ont entendu, les disciples. Et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes. Enfin, moi, ce que j'ai entendu, c'est que je me convertis à lui, à Jésus, par le Seigneur qui vient me parler en premier. Dieu me touche par sa parole, il vient me parler. Ensuite, par ma vie, moi qui ai entendu ça et qui ai mis en pratique et qui a mis en œuvre ce salut, et qui me suis converti à lui, qui a donné ma vie radicalement à lui, moi qui l'ai entendu, je vais confirmer ce que le Seigneur me dit par mon témoignage autour de moi. C'est-à-dire que je reflète la lumière de Jésus. On est des petits Christ, des chrétiens, et nous sommes là, notre vie, elle est là en témoignage autour de nous. Et Dieu vient appuyer notre témoignage. Le but des miracles ici, c'est pas d'authentifier l'existence de Dieu, c'est pas de prouver que Dieu existe. Évidemment que les miracles ne peuvent pas exister si Dieu n'existe pas. Hein. Mais ici, le but du miracle, c'est d'attester et de prouver que ceux qui proclament l'Évangile, que ceux qui témoignent, sont dans la vérité. Hein, il a fait ça avec Moïse. Dieu a certifié Moïse avec des miracles. Hein, il y a les plaies d'Égypte, il y a eu beaucoup de choses, l'ouverture de la mer, la manne, etc. Il a certifié que Jésus était vrai avec des miracles. Jésus a fait d'innombrables miracles. Les apôtres, les premiers disciples, ont fait d'innombrables miracles aussi. Et c'est un encouragement formidable pour nous à proclamer l'évangile et à témoigner. Parce que, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est que quand on témoigne, on voit la main de Dieu s'accomplir, on voit l'œuvre de Dieu se faire. Et ça, c'est hyper, super bien pour nous, parce que c'est un encouragement très fort. Même les anges sont là en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous voyez tout ce que Dieu met en œuvre pour que les gens se tournent vers lui. Et ma petite conclusion, c'est juste un verset que je n'ai pas mis. Eh ben non. C'est Colossiens 2,6 qui nous dit aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. C'est une construction, hein? Il faut de la volonté. Attachez-vous un lien solide, prosecco, facile à retenir. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Amen.